Bonjour à tous, bienvenue dans mes écouteurs sur Radio Alliance Plus 103.2 à Nîmes. Je m'appelle Anna et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une émission un peu spéciale. On ne parlera pas de musique aujourd'hui mais bien de témoignages, des témoignages précieux, des petits morceaux de vie que j'ai pu entendre dans mes écouteurs récemment. J'accueille aujourd'hui dans notre studio Paul Pétoureau, journaliste et vidéaste. Depuis plusieurs années, Paul recueille des témoignages de personnes nées dans les années 30, nos anciens, pour archiver, préserver et diffuser leurs récits, leurs souvenirs si précieux, et les conserver au-delà du temps qui passe. J'ai découvert son travail il y a plusieurs mois sur les réseaux sociaux, et cela m'a totalement bouleversée. Parce qu'en réalité, cette démarche me parle intimement. J'ai moi aussi ressenti cette nécessité dans ma vie, l'urgence d'enregistrer les voix et l'histoire de mes grands-parents et de rendre leur récit éternel. Depuis leur départ, j'ai souvent une grande tendresse à écouter des seniors raconter leur vie, des personnes du 3e et du 4e âge, d'entendre leurs souvenirs. Et pendant longtemps, je me suis demandé si j'étais la seule à ressentir ça, à avoir ce besoin d'écouter ces discours avec intérêt et respect. Et non, je ne suis pas la seule, Paul, lui, a décidé d'en faire sa mission avec ses interviews partout en France, un concept qui s'appelle « Passer par là », j'aime beaucoup ce nom d'ailleurs, déjà des centaines d'interviews réalisées et certaines sont publiées sur Instagram, YouTube et en podcast sur Spotify. C'est un travail remarquable et émouvant que je vous invite à aller consulter. Alors bienvenue Paul Pétoureau dans les studios de Radio Alliance Plus, merci beaucoup d'être avec nous. Je suis ravie de te recevoir ici à Nîmes. Je me permets de te tutoyer si c'est ok pour toi.
Bien sûr.
Bon, je suis trop contente que tu sois là. Alors comment tu vas avec cette forte chaleur nimoise?
Écoute, on a la même dans le Gers. Hein.
Donc tu viens du Gers, je ne savais pas.
Oui tout à fait, je viens du Gers de Condom précisément, okay. Petite ville voilà, de 6000 habitants. Et au climat aussi voilà, très sec, surtout par ces chaleurs voilà, d'été.
Donc ça ne te surprend pas trop. Moi, je suis au bout de ma vie. Donc, tu es en tournage actuellement. J'ai vu sur tes réseaux sociaux qu'hier, tu étais au Vigan pour une interview, je crois, d'une centenaire, c'est ça?
102 ans, oui.
102 ans.
Bientôt.
Et ça s'est passé comment?
Très bien aussi. C'est des interviews qui durent entre 1h30 et 2h et qui passent à la fois très, très vite. Ça dépend aussi évidemment de la forme de la personne, mais en l'occurrence Jeannette était vraiment très très alerte et on en profite aussi pour voilà pour prendre le temps. On en parlait juste avant de donner un peu de temporalité, de rythme. Je rentre pas de suite dans l'interview. J'essaie de discuter un peu avec la personne, de faire les présentations.
Avec la famille aussi peut-être.
Quand elle est présente aussi, oui.
D'accord. Mais c'est bien de prendre le temps d'interviewer, de pas aller vraiment à l'essentiel comme ça et de s'acclimater à l'environnement aussi de la personne. Interviewer des personnes qui ont dépassé 100 ans, j'imagine que c'est un peu différent d'autres catégories
d'âge. Disons, ça change énormément les questions aussi vis-à-vis des personnes qui sont plus jeunes, puisqu'il y a quand même des chapitres qui sont abordés plus tôt ou plus tard dans l'interview. Et voilà, le process n'est pas forcément le même. Mais oui, à 20 ans, enfin, il y a parfois 20 ans, 15 ans d'écart avec certaines personnes. Et les interviews sont aussi plus longues, quoi.
Je comprends. Alors, je voulais te demander, donc, pour expliquer à nos auditeurs, ce projet, il est né en 2022, c'est bien ça?
Tout à fait.
Et j'avais envie de savoir, en fait, la genèse, comment c'était né, comment tu as décidé de commencer ce projet?
Alors, j'ai décidé, c'est pas vraiment que je l'ai décidé. J'ai perdu ma grand-mère et mes grands-parents maternels, on va dire, assez jeunes. J'avais 18 et 25 ans. Ils en avaient 68 et 75 à l'époque. Et ça a été un petit peu le déclic pour moi, puisque je me suis aperçu que j'avais rien pu conserver d'eux. Et j'ai voulu donc tout simplement interroger les grands-parents des autres pour essayer de reconstituer leur époque et leur trajectoire de vie.
Ok, donc c'est un peu une réparation quelque part.
Totalement. Okay. Totalement, au départ en tout cas. Maintenant, voilà, le leitmotiv a un petit peu évolué, mais en tout cas, au départ, c'était pour me guérir en quelque sorte, quoi.
Ok, on va en parler. Tu as commencé donc avec ces quelques interviews en 2022. Ça a bien marché, j'imagine, pour toi, pour les personnes que tu as rencontrées. Et comment ça a évolué sur le concept « Passer par là », hein, c'est le nom de ton concept. Et d'ailleurs, je voulais un peu comprendre ce nom aussi. Donc, si tu peux nous expliquer un peu l'évolution du projet.
Ce que je te disais, en fait, je ne l'ai pas vraiment choisi, puisque j'ai posté des premiers extraits de ces interviews sur les réseaux sociaux, mais sans vouloir à tout prix en faire un concept, un projet. Et c'est la viralité de certains extraits, le succès certains témoignages qui m'ont poussé à continuer et à chercher d'autres personnes interviewées, puisque j'arrivais à court finalement de ce que je pouvais diffuser aussi.
Ok.
Et de fil en aiguille.
Donc c'est là où tu as commencé à faire des tours de France, à faire des voyages.
Voilà, exactement. Des premiers déplacements dans les départements limitrophes, surtout. Donc les Landes, le Lot-et-Garonne, il y avait les Pyrénées-Atlantiques aussi. Enfin voilà. Et après, toujours plus loin. Donc les Bouches-du-Rhône, je me rappelle, la Loire-Atlantique aussi. Et la Belgique, enfin voilà.
Alors moi, je voulais absolument partager à nos auditeurs ton travail. Et d'abord, on va parler d'un texte très touchant que tu as publié en 2025 sur Instagram, qui parle de ce projet de cœur et qui s'adresse à ta grand-mère. On l'écoute ensemble sur Radio Alliance Plus et on revient juste après pour en discuter.
Toi autrefois qui as tenu dans tes immenses mains ma naissance, et pour tout, embrasser le nu de ma peau rouge, ma peau d'enfance. Toi qui m'as saisi sur tes hanches, j'ai grandi dans tes bras noués, heureux comme un dimanche, et de tout cet amour doué. Pourtant jamais de ton vivant, je n'ai pensé à enregistrer nos grandes conversations devant le jardin ou la porte d'entrée. J'aurais voulu garder davantage de toi, de ta vie, ta jeunesse, et figer pour mon héritage un souvenir qui jamais ne cesse. Alors tu restes comme une image qui s'étiole et file trop tôt. J'oublie doucement ton visage, malgré dans ma chambre ta photo. Mourant comme une sépulture qui n'a pas de nom, du soldat tombé songeur dans la nature ou de la nonne en habit plat. Comme tous ces gens oubliés qui montèrent des cathédrales, qui frappèrent sur des boucliers ou garnirent de peintures murales. C'est pourquoi, depuis ton départ, j'enregistre celles et ceux qui, avant qu'il ne soit trop tard, bientôt nous quitteront. Car oui, tu m'as laissé une mission, sauver la mémoire commune. Recueillir est mon obsession et faire parler ma tribune. Parce que comme toi, ces personnes ont à dire, elles qui dans la guerre ont grandi. Dans les bombes qui sonnent, dans la faim, ou qui sur la terre se sont courbées au matin rose.
Alors on est de retour sur Radio Alliance Plus avec Paul Peytoureau, journaliste et vidéaste du concept Passer par là. Alors vous venez d'entendre cet extrait poétique qui m'a touchée en plein cœur, qui m'a émue aux larmes quand je l'ai découvert sur les réseaux sociaux. C'est vrai que je m'identifie pas mal à ce que tu racontes. Je vois en fait ces images que tu décris à travers les miennes que j'ai vécues avec ma grand-mère, mon grand-père. Donc merci beaucoup pour ce texte qui m'a beaucoup touchée. Et je sens vraiment une sensibilité, une émotion quand tu parles de tout ça. Et je voulais te demander, dans ces interviews, quand tu rencontres ces grands-parents, ces personnes, nos aînés finalement, est-ce que ça t'arrive d'être bouleversé aussi par ces histoires que tu écoutes?
Bien sûr. Bon, forcément, avec la quantité maintenant d'interviews réalisées, on devient de plus en plus, on s'éloigne, je veux dire. On devient un peu plus insensible, mais je reste quand même dans l'écoute et souvent j'ai quand même aussi cueilli par les histoires que j'entends.
Au début, les premières, ça devait te faire quelque chose.
Était nouveau.
Oui, bien
donc,
sûr.
Donc j'apprenais aussi de tout, des récits, des parcours, des profils, de la vie à la campagne, du confort à la ville, enfin plein de choses. Donc tout était neuf et ça c'était extraordinaire. Donc maintenant je sais aussi plus ou moins ce que les personnes vont me dire, puisque les profils aussi se recoupent souvent.
Ok.
Mais ça reste pas moins intéressant, hein. C'est juste que je m'attends davantage à ce que je vais entendre, quoi.
Ouais, c'est vrai que moi, quand j'entends une personne âgée me raconter sa vie, je vais toujours tout de suite vraiment avoir cette émotion. Je pense qu'en en entendant beaucoup et en prenant du recul et ce côté, c'est devenu une de tes casquettes finalement de faire ces interviews, donc on n'a pas le même rapport aussi à l'écoute de ces discours-là, quoi.
Mais disons que il y a des histoires, comme je te dis souvent, qui se ressemblent du fait de la géographie, du milieu social aussi, des personnes assez pauvres qui ont vécu dans la misère, on peut le dire, d'autres qui étaient dans des milieux assez bourgeois avec du personnel. Enfin, c'est vraiment très très large au niveau sociologique, et ça qui est intéressant aussi, anthropologique, psychologique aussi. Mais c'est pour ça que c'est aussi ce qui fait partie, ce qui fait la richesse, disons, du projet, quoi.
J'imagine. On va continuer avec les extraits ensemble et écouter ces histoires extraordinaires. Je pense à l'extrait de Louis, 97 ans, résistant pendant la guerre. J'avais l'impression d'être dans un film. On écoute un petit extrait ensemble.
Vous êtes fait cueillir par les Allemands ? Vous avez dit, les Allemands vous ont cueilli ?
Non, je ne sais pas, ils nous ont accueillis. On a forcé un barrage.
Comment ça ?
Ben, dès qu'on est sorti du patelin, il y a une grosse voiture qui s'est arrêtée et un Allemand est sorti avec une mitraillette et il nous a fait signe de nous arrêter. Le copain a bien ralenti, mais on lui a dit « Vas-y, Dudul, tu fonces ». Alors, dès qu'il est arrivé pas loin de l'Allemand, il a mis le paquet. Et l'Allemand, il a plongé dans le fossé. Même, je ne sais même pas s'il n'avait pas pris un petit coup d'aile dans la fesse, mais il était quand même aguerri, pas plus tôt dans le fossé. On a reçu une rafale derrière. Et cette rafale, a beaucoup de temps après, j'ai réfléchi, parce que après, tout de suite après, on continue et là on s'aperçoit qu'on est tombé sur un convoi allemand. On dit toujours « Dudul, tu fonces », mais on a foncé, on a passé 10 camions, parce que ça a surpris, on passe à toute vitesse, mais après, ils en ont mis un en travers. Alors je lui donne un coup de volant, sauter un talus, et il y avait un pré et un bois au bout, on pensait se foutre dans le bois, mais la voiture s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée parce que j'y ai pensé après, elle n'avait plus d'essence, le rafale nous avait percé le réservoir. Donc on avait fini ce qu'il y avait dans les carburants. Donc on n'est pas tout à fait arrivé au bois. C'est là que je me suis fait aligner. Comme la voiture s'est arrêtée, j'ai pris une rafale. J'ai pris une balle.
Waouh, cet extrait, moi, tu m'as vu à l'écoute, j'étais complètement
Vas-y, Dudul,
dedans.
Tu
ouais, c'est ça, Dudul, tu fonces, ça, c'est vraiment, ouais, ça m'a accueilli cette histoire. Et c'est pour ça que je te disais comment tu réagis, parce que je pense que c'est le genre d'histoire d'extrait quand même unique, quoi, c'est iconique.
Oui, c'est sûr. Bah déjà, c'est des personnes qui en imposent quand tu les rencontres. De suite, Louis, en l'occurrence, a perdu son bras à cause de cet incident.
Okay.
Donc, je ne sais pas si tu savais.
Non, j'ai pas vu.
Il a perdu son bras.
Il a été touché au bras et on lui a enlevé.
Oui, son bras droit. Et à cause de cette attaque-là. Et donc, toute sa vie, voilà, il a fait sans bras. Voilà. Donc, c'est de suite quand tu rentres dans la maison, que tu vois ce monsieur amputé, ça fait aussi quelque chose, quoi. Tu lui dis tu lui demandes pourquoi et il te répond c'était pendant la guerre.
Mais voilà. T'as l'impression que c'est tellement loin de nous. Moi, j'entends ça, je me dis, c'est pas possible que ce monsieur-là ait vécu ça à un moment donné dans sa vie. Enfin, t'imagines les émotions de l'époque.
Oui, c'est sûr. Et aussi, voilà, le rapport aux armes, la symbolique des armes à feu. Enfin, on est très, très loin aussi de tout ça, quoi.
On va continuer avec des petits extraits parce que vraiment, je suis fan de ce projet, vous l'avez compris. Ce qui me touche aussi dans les témoignages que tu mets en valeur sur les réseaux, sur Insta, YouTube et sur Spotify, c'est aussi la vision sur l'amour, les rencontres. Et je pense à cette anecdote si touchante d'Antoine. 95 ans, on l'écoute ensemble sur Radio Alliance Plus.
Vous savez comment j'ai connu mon mari ? Vous voulez le savoir ? Et je suis branchée là. Je peux y aller ?
Oui.
Je reviens avec ma valise. Ma grand-mère me dit : dépêche-toi de te déshabiller, aller te changer en tenue de travail. Parce qu'on a un nouveau ouvrier, on a beaucoup de cerises, il nous cueille toutes les cerises sans queue, donc je ne peux pas les vendre. Tu vas aller lui expliquer comment on cueille des cerises. Donc j'ai été me changer, j'ai été lui montrer comment on cueille des cerises. Je l'ai même appris à danser.
C'était votre premier amour, en fait.
Oui.
Le seul.
Et il m'a quitté beaucoup trop vite.
Je vais pleurer, mais c'est si romantique, c'est fou, cette histoire de cerise. Mais ça n'arrive plus aujourd'hui, quoi, ce genre de rencontre.
C'est la rencontre dans ton,
d'une vie.
Dans ton fantasme un petit peu.
Mais d'une vie, quoi. Juste parce qu'ils ne savaient pas cueillir des cerises, ils se sont rencontrés et pour toujours, quoi. Ça a dû t'émouvoir sur le moment et on se dit qu'aujourd'hui, on n'a plus jamais ces occasions de faire une rencontre sur une histoire de cueillette de cerises et de rester ensemble jusqu'à la fin de nos jours. C'est quand même des histoires... Enfin, à l'époque, ils avaient une personne qu'ils rencontraient à l'âge de 18-20 ans et pour toute la vie. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le même schéma de rencontre.
Non, du tout. Non, c'est sûr. Même parfois plus tôt. Ils se mariaient aussi mineurs. C'était le cas de la dame de tout à l'heure qui avait 19 ou 20 ans, que j'ai interviewé ce matin. Et donc se marier mineur, avoir l'autorisation du papa, c'était des choses qu'on peut pas imaginer pour notre génération et rester aussi toute une vie avec les bons comme les mauvais côtés, hein.
Tout à fait.
Parce que je mets souvent les bons côtés, mais j'entends aussi beaucoup les mauvais, et donc des histoires d'adultère, de femmes battues,
violence,
ouais, violence conjugale, mais c'est pas des choses, enfin j'en diffuse quelquefois, mais aussi par souci, on va dire, pas bienveillance pour les familles, je pense que c'est des choses qu'il faut pas trop remuer, pas trop exposer
au grand. Je suis complètement d'accord.
Voilà.
Je crois que de manière générale, ton projet t'essaie quand même de mettre en valeur des choses quand même positives ou des choses qui sont valorisantes ou des histoires qui peuvent nous apprendre. Après, il y a des choses très difficiles, on va le voir juste après, mais
disons que c'est toujours dans l'intérêt de la personne. Et de leur époque, en fait. Il y a beaucoup d'extraits qui...
Il n'y a pas de secret de famille que tu vas dévoiler comme ça
Non, des secrets de famille, non, jamais. Non, c'est pas
le
but.
Ça doit arriver pourtant.
Oui, il y a des choses qu'on apprend quelquefois. Enfin, pas moi, mais... Enfin, si aussi, mais je veux dire, c'est aussi la famille qui l'apprend surtout, qu'elle ne connaissait pas avant l'interview, et la personne se livre aussi sur ces
incroyable.
Questions-là. Ça arrivait quelquefois, quand même. Mais c'est toujours... en fait, je diffuse toujours des choses qui puissent construire, qui puissent apporter, qui puissent mettre...
C'est ce que j'entends.
Qui puissent servir, tout simplement.
Exactement. Donc, je parlais de sujets difficiles. On va parler d'un autre témoignage poignant sur l'avortement avec Yvette, 93 ans.
Parce qu'il n'y avait pas moyen, quand je l'ai dit au docteur, moi, je sentais. Alors, il m'a dit, vous mettrez un autre lit au-dessus. Bon, j'ai rien dit, je suis partie à la pitié. J'ai vu un médecin, puis il m'a confirmé la grossesse. Et je suis retournée le voir 8 jours après. Alors j'ai dit, je crois que j'ai fait une fausse couche. Il m'a dit, bon, il a fait sortir l'infirmière parce que c'était pas autorisé. Hein. Alors il me dit, racontez-moi ce que vous avez fait. Alors j'ai dit, un comprimé de permanganate de potasse. Du permanganate de potasse. Alors, bon, ça a marché. Alors, il m'a engueulé, il m'a dit, mais vous vous rendez compte? J'ai eu des perforations de vessie avec ça, vous êtes folle. Bon, alors, il m'a dit, bon, ça s'est bien passé, vous avez de la chance. Bon, mais lui, il n'a rien dit. À cette époque-là, ce n'était pas autorisé. Hein.
Le premier médecin que vous avez vu, vous avez répondu, vous n'avez qu'à rajouter un lit?
Oui, oui. Ouais. J'avais qu'à remettre un lit au-dessus, comme j'avais des lits superposés pour les enfants. Alors, je suis même allée travailler après le lendemain. Alors, il y avait une amie qui était au courant, alors elle me dit, t'as vu la tête que t'as? Alors, j'ai dit, bah oui, j'ai fait une fausse couche. Elle dit, t'es malade? Alors, bon, elle était au courant, mais... Mais j'ai été travailler le lendemain parce que je ne voulais pas que ça se sache, quoi.
Si il vous avait dénoncé, qu'est-ce qui se passait?
Ah ben, j'aurais certainement été en prison. Hein. Certainement. C'est pour ça, quand ils l'ont mis, c'était bien pour les jeunes. Hein. Ça fait...
Ouais, sujet pas facile à écouter pour moi, parce que j'avoue que ça me fait penser à ma grand-mère qui me racontait aussi sa période jeune où c'était interdit d'avorter et où c'était des histoires pas possibles qu'elle me racontait de ses amis ou d'elle-même à chercher comment faire pour avorter à ce moment-là. C'était vraiment quelque chose de très difficile à l'époque. Tomber enceinte, c'était leur pire hantise, je pense. Et j'ai vu sur ton compte Insta qu'il y avait une deuxième personne qui avait témoigné à visage couvert. Je ne sais pas si tu remets cet extrait, beaucoup plus, où elle raconte beaucoup plus les choses, où c'est
plus évocateur.
Ouais. Ouais, ça m'a vraiment marqué. Et je me demandais, ouais, c'est pareil, quand tu prends ces images ou ces témoignages-là, comment elles font pour se livrer à toi comme ça? Enfin, c'est quand même difficile de parler de ça à quelqu'un. Ça vient dans le discours parce que ça a marqué leur vie ou...
Bien sûr, oui, tout à fait. Mais c'est aussi parce qu'on n'y arrive pas de suite. Il y a quand même tout un processus avant d'arriver sur ces thématiques-là. Et je pars vraiment du départ, donc de la naissance, de la petite enfance, des parents, des grands-parents, de la famille. Et on arrive plus tard, au bout d'une heure, une heure et demie, sur ces sujets-là.
T'as toute une construction, en fait. C'est toujours la même.
C'est toujours la même. La construction ne change pas. Mais évidemment, elle s'adapte à la personne. C'est du sur-mesure.
C'est quand même un protocole pour les mettre en conscience, pour parler des choses dans l'ordre.
C'est ça.
Et ensuite, au bout d'un temps, les personnes s'ouvrent éventuellement et te racontent.
Ou pas.
Ou pas.
Mais généralement, voilà, j'y arrive aussi, et ça, il faut le souligner, parce qu'il y a la famille. Parce qu'il y a la petite fille ou la fille qui est à côté et qui dit « Vas-y maman, tu peux y aller, fais-le, c'est aussi pour nous. »
Et ces familles-là te remercient de ce travail que tu fais d'archivage de leur histoire de famille, comment...
Je dirais 95%, oui.
C'est eux qui te demandent de passer du coup aujourd'hui, plus que toi qui recherches des témoignages, c'est eux qui te demandent sur les réseaux?
Tout à fait, je ne recherche plus, j'ai plus de prospection pour ainsi dire à faire, c'est les familles qui me contactent directement pour un proche. Et je me déplace dès lors que j'en ai la possibilité, voilà, parce que c'est parfois un petit peu loin de chez moi. Mais oui, les familles sont quand même assez reconnaissantes de ça, pour la grande majorité. Et j'ai quasiment même... ouais, peut-être elles doivent se compter sur les doigts de la main, quoi. Les familles pour qui j'ai pas eu de retour. Ou,
oui,
voilà.
J'entends. Et tu dois choisir quand même tes témoignages, ou c'est... t'as trop de demandes, ou est-ce que t'arrives quand même à répondre
J'ai beaucoup de demandes avec une assez longue liste d'attentes, mais j'essaie de répondre à tout le monde. Enfin, je réponds à tout le monde, et puis j'essaie d'aller voir toutes les personnes le plus rapidement possible, parce qu'on ne sait pas forcément de quoi l'avenir est fait.
Tout à fait. Du coup, j'embraye sur ce sujet. J'ai entendu que tu parlais parfois de la mort aussi. Avec eux, donc la fin de vie, dans certaines interviews. C'est un sujet, moi, j'ai beaucoup de mal à l'aborder, personnellement, avec moi-même et avec les autres. Quel est le sentiment qui revient le plus dans les réponses quand tu parles de cette...
De la mort ?
De la mort, oui.
Avec les personnages.
J'arrive même pas à le dire, quand tu parles de la mort.
C'est des personnes qui sont très terre-à-terre, pour la plupart. Il y a deux cas de figure, des personnes qui sont nées dans la campagne, très cartésiennes... pour elle, il n'y a absolument rien après. Et les autres qui sont très croyantes. Donc, on est vraiment deux populations qui s'opposent.
Et il y a des personnes qui ont peur. Est-ce que tu entends de la peur sur de la mort, la peur la...
Pour ainsi dire, j'en ai que deux en tête. Surtout
qui
celles que j'ai.
Oui,
vraiment très très peu.
Sinon,
il y a une indifférence, beaucoup.
Ça va venir et c'est ainsi.
Oui, c'est ça. C'est catégorique, quoi. Ça doit arriver, c'est factuel, voilà. Donc, à quoi bon s'en préoccuper? Et puis, beaucoup de détachement et aussi beaucoup de lassitude. Hein. Certaines personnes, elles attendent ça.
Ok. Et toi, ton point de vue par rapport à la fin de vie, la mort, tout
Mon
ça?
Mon idée personnelle.
Ouais.
je ne suis pas croyant. Je ne crois je dirais pas en rien, c'est pas vrai. Mais peut-être pas en ce que la religion nous propose. Je pense effectivement à l'éventualité qu'il y ait quelque chose ensuite. Je ne suis pas fermé du tout à ça.
Mais ce n'est pas un sujet auquel tu penses quotidiennement
Si, en fait, c'est aussi pour ça que les interviews sont une sorte de miroir, en fait. C'est mes préoccupations, mes inquiétudes.
C'est ce que je me demandais, ouais.
Qui sont tout simplement posées à ces personnes-là. J'essaie en fait de répondre aussi à mes propres interrogations. Donc, il y a pas mal de questions autour de la famille, autour de la parentalité, autour du schéma familial, des parents aussi, de l'image en fait aussi qu'on se fait de ses propres parents et du poids qu'ils ont sur nous ensuite pour notre vie. Et donc tout ça, en fait, ça vient aussi de mes angoisses, de mes réflexions.
Donc d'avoir ces témoignages, ça permet aussi de nourrir et de venir alimenter ces questionnements que tu as intérieurement, quoi.
Bien sûr, et d'y répondre.
Et dans ce sens, on écoute Alain, 91 ans, qui aborde ce sujet et qui nous parle également de sa vision du couple dans le temps.
Alors une question que je ne vous ai pas posée tout à l'heure, mais comment on fait pour rester autant de temps marié avec la même personne?
Eh bien, il faut s'aimer d'abord. Bon, on s'engueule de temps en temps. Mais bon, on se réconcilie sur l'oreiller. Puis on a eu deux enfants, deux filles. Et maintenant, nous sommes grand-père et grand-mère. Nous avons quatre petits-enfants. Et la vie s'écoule. Et puis voilà. Et on arrive au seuil, disons, du grand départ. 91 ans, ça, vous savez, ça passe vite. Hein. Ça passe vite. Moi, maintenant, je suis en train de galoper sur 92.
Et alors, je me risque à vous poser la question maintenant, mais ça vous fait quoi, finalement, de vous savoir près de ce départ-là? Enfin, près, je ne vous souhaite pas de partir.
Mais je vais vous dire ce que me disait mon père. De mourir, ça ne me fait pas peur. Mais c'est que de rester mort qui m'emmerde. Voilà.
Ah, c'est un de mes extraits préférés, franchement. Donc, vous venez d'entendre Alain, 91 ans, et sa phrase légendaire, « De mourir, ça ne me fait pas peur, mais c'est de rester mort qui m'emmerde. » J'ai rarement entendu ce genre de remarque à propos de ce grand départ. Et ça, je sais pas, je trouve que c'est... C'est un trésor d'entendre ça, en fait, de ce monsieur.
Je trouve particulièrement beau de pouvoir finalement garder ça pour les familles, pour soi, pour la vie. Et ce que j'aime aussi dire souvent, quand on me le demande, mais c'est que je ne peux pas empêcher ces personnes de mourir, mais je peux les faire continuer à vivre, tu vois. Et j'aime bien cette idée-là, en fait, que, en fait, grâce à nos moyens aujourd'hui, à la technologie, à ce qu'on peut en faire, qu'on puisse conserver toutes ces choses pour la suite, pour les générations qui arrivent aussi, pour nos enfants.
C'est un énorme travail que tu fais, vraiment. Tu as interviewé près de 300 personnes, c'est ça, aujourd'hui? Est-ce que c'est... J'ai le bon chiffre.
316 ce matin.
Donc ça commence à être vraiment pas mal. J'avais une question aussi sur le fait que les personnes âgées, aujourd'hui, elles ont le sentiment de plus trop susciter l'intérêt à leur fin de vie. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens dans tes interviews, tout ce qui est invisibilité? Est-ce que quand elles parlent, elles te disent « bon, ce que j'ai à raconter, finalement, ça va intéresser
Alors,
personne ?»
Il y a deux choses. Ce dont elles peuvent parler, effectivement, elles ont le sentiment que ça va intéresser absolument personne et souvent, elles refusent même de témoigner à cause de ça.
Okay.
Après, ce sentiment de solitude, d'isolement, moi, j'ai un rapport, disons, un peu biaisé par rapport à ça parce que je n'interview que des personnes dont le cercle, le noyau familial est quand même solide.
Présent.
Les gens sont quand même particulièrement autour de la personne. Et je n'ai pas du tout ce rapport avec la personne qui est, disons, seule en EHPAD ou seule chez elle, mais particulièrement isolée. Quoi. Okay. J'ai pas ça. Mais pas, j'ai que le bon côté, finalement, de la vieillesse, on peut dire.
Je comprends. Et est-ce que tu t'attendais du coup à ce que des centaines de milliers de personnes regardent tes vidéos là, avec ce travail au bout de quelques années? Comment ça s'est passé un peu la popularité de ton projet
Alors centaines de milliers, c'est peut-être un petit peu fort.
Là, sur le nombre de vues
Mais je ne sais jamais en fait si elles regardent totalement ou si elles que font.
Oui.
Enfin, tu vois, mais... pour ça, je préfère minimiser les chiffres. Je dirais au moins quelques dizaines, mais c'est déjà énorme effectivement. Et comment je le vis?
Je crois sur un post, tu avais eu 100 000 likes, un truc comme ça. Hein.
Alors c'est rare, il y en a eu 2-3 effectivement où j'ai plus de 100 000 j'aime. Mais,
ça c'est énorme, ouais.
Mais oui, non, mais c'est démentiel, hein. c'est
sur, vertigineux. C'était sur le format de la professeure de yoga.
Il y a eu Odette, effectivement, qui a dépassé les 100 000 j'aime. Il y a eu Paulette aussi, qui s'était mise à fumer pour rejoindre son mari, qui avait fait énormément de vues et de j'aime d'interaction à l'époque.
J'irai voir.
Et qui déplorait, en fait, bah, justement, on en revient à cette thématique de la solitude, pour le coup. Qui racontait qu'elle ne parlait pas pendant 40-50 heures d'affilée. parce qu'elle n'avait pas de coup de téléphone et qu'elle ne sortait pas de chez elle.
Ouais, ouais, un cauchemar. Donc,
ouais. Mais c'était, voilà.
Donc elle a commencé à fumer pour accélérer son départ.
C'est ça, pour partir
départ.
Plus vite. Ouais. Wow. Et ça, ça avait fait énormément de...
De réactions.
Oui, ouais.
Et du coup, donc ouais, ça, là, t'arrives à 164 000 abonnés hein, sur ton compte Instagram, c'est pas rien. Moi, je trouve que sur un sujet où justement on parle pas trop des personnes âgées, etc., c'est quand même un aboutissement. Enfin, c'est pas un aboutissement, mais c'est un succès, quoi.
C'est une surprise aussi.
Et une surprise.
Parce que je poste à contre-courant, on en parlait juste avant, mais à contre-courant un petit peu des réseaux sociaux. Je veux pas te faire de teasing au début de mes vidéos, je veux pas.
Tu fais pas de hook où il y a des moments où ça laisse ouais, les gens restent, etc.
Non, je me refuse à ça parce que je trouve que ça ne ressemble pas à cette génération-là.
Ben non.
En fait, c'est des gens qui sont quand même très simples au fond, dans le bon côté, enfin dans le sens positif du terme. Et j'ai pas envie de dénaturer voilà cette simplicité-là et j'ai envie de poster telle quelle. Mm. Voilà. Donc
tu fais très peu de montage. Enfin,
c'est très brut, oui.
Oui, c'est très brut.
Comme montage. Mais en tout cas, je veux rester voilà, fidèle à ce que ces personnes sont et renvoient.
Je comprends tout à fait. Cette communauté, donc c'est 164 000 personnes. Est-ce que c'est une communauté qui est proche de toi, avec qui tu échanges? J'ai vu que tu avais pu rencontrer des abonnés dans les villes où tu tournes, que tu es parfois accueilli même chez eux. Donc, passer du digital au réel comme ça, c'est quand même fantastique. Tu crées un peu du concret.
C'est le but, finalement, puisque pour moi, c'est quelque chose de très peu palpable, tout ce qui est réseaux sociaux. Je suis quand même anti-réseaux sociaux à la base, hein. Faut le préciser, je ne suis pas trop pour. Je ne m'y retrouve pas tellement. Et là, justement, la façon de m'y retrouver, c'est de rencontrer les personnes qui suivent le projet directement dans la vie. Et c'est pour ça que souvent, lors de mes déplacements, je leur demande l'hospitalité. Et je leur demande voilà, si elles peuvent m'accueillir une nuit, partager un repas, partager un moment.
C'est génial.
Et c'est une aventure humaine qui se poursuit.
Oui, ce que je disais, c'est une autre expérience humaine en parallèle de tes interviews.
Exactement,
finalement.
Exactement, tout à fait.
Donc c'est hyper riche.
C'est
aussi... Et quand tu finis tes road trips à la fin, t'es pas en croix quand
si,
tu rentres chez
si,
toi.
Si, c'est très, très
c'est
énergivore.
C'est super demandant au niveau social aussi.
Il faut être quand même, ouais, il faut... Bah après, c'est un choix, hein, donc c'est moi
ce
qui le souhaite.
C'est ce que tu aimes aussi.
C'est moi qui le souhaite, mais tu vois, hier soir, j'étais avec Quentin et Violaine. C'était
qu'on salue.
à Nîmes, donc. C'était super. C'est un super moment. Donc, c'est aussi... en fait, j'ai très peu le temps de visiter, puisque je suis toujours entre des interviews. Donc, en fait, ces personnes, c'est aussi une façon pour moi de visiter le coin où je suis, quoi.
Ouais, c'est génial. Et c'est donc énormément de travail. On ne se rend pas compte de l'extérieur, hein, ce que c'est le travail de journaliste, chroniqueur, vidéaste. Les déplacements, le matériel, le montage, la diffusion, la création de contenu. Je voulais te demander si tu vivais de ce projet aujourd'hui.
Bonne question, mais non.
Ouais, c'est étonnant.
Non, j'en vis pas, mais je dirais pas que c'est... Alors un choix, le mot est un peu fort peut-être, même trop fort, mais disons que je me suis opposé à certains types de financement. Je me suis refusé à collaborer avec certaines entreprises, certains sponsors.
D'accord.
Donc pour des questions d'éthique, hein, tout simplement aussi.
Tu veux rester complètement libre peut-être?
Alors oui et non, c'est-à-dire que normalement j'ai trouvé peut-être un sponsor là, c'est une question de jours.
On va croiser les doigts, trop bien.
Mais ça serait une façon enfin d'en vivre en 4 ans. Mais voilà, je ne me suis pas versé de salaire et j'ai fait le choix aussi de ne pas travailler à côté, de continuer à me consacrer pleinement à ce projet-là. Mais là aussi, c'est mon choix. J'aurais très bien pu trouver un petit boulot alimentaire, mais je n'ai pas voulu. Voilà.
Tu voulais garder toute ton énergie pour développer.
Exactement, pour me consacrer.
Et si ça devient un job full-time pour toi, ce serait génial. Je croise les doigts pour toi.
C'est gentil.
On arrive à la fin de cette interview. Merci de ta venue au sein de notre radio à Nîmes.
Merci à toi.
Vous pouvez retrouver toutes les interviews sur YouTube, Instagram et les podcasts sur Spotify. Avant de conclure, j'avais une dernière question pour toi. Que dirais-tu à la génération d'aujourd'hui, donc les 18-20 ans, hyper connectés, comme conseil, leur rapport et leur vision par rapport aux personnes âgées, leurs grands-parents? Qu'est-ce que tu leur dirais pour aller écouter ces histoires, pour prendre ce temps et de ne pas être dans l'immédiateté? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire?
J'ai combien de temps pour répondre?
Mais non, mais tranquille, on a tout le temps, vas-y.
Je suis mal placé déjà pour en parler, parce qu'à 20 ans, j'étais très proche de mes grands-parents, mais j'étais pas du tout dans cette optique-là.
T'avais pas cette conscience?
Absolument pas. J'étais pas du tout dans la démarche de les enregistrer, d'aller les voir pour ça. je passais du temps, mais comme on passe un moment à table avec ses grands-parents.
C'est ça, petit repas de famille et au revoir, quoi.
Et ouais, où on va se promener, mais voilà, c'est quand même, ça reste très limité. Donc, je ne suis pas trop en bonne posture pour donner des conseils. Mais,
avec ton expérience.
Mais voilà, après, j'ai constaté plus tard que ça a été un regret, finalement, de ne pas m'être tourné davantage vers eux à ce moment-là. Donc, je ne peux que conseiller ceux qui ont encore leurs grands-parents d'aller les consulter, de les questionner, même s'ils sont de mauvaise humeur quelquefois ou qu'ils ont des difficultés. Voilà, il faut s'adapter, se mettre à leur niveau et on peut en tirer beaucoup. Et c'est notamment ce que je peux prouver avec ce projet.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et c'est une question que tu as posée à certains de tes interviewés. Tu leur as demandé quels étaient leurs conseils pour la jeunesse. J'ai adoré ce mash-up de réponses. Donc, je vais te laisser, Paul, clôturer cette émission en lançant cette dernière séquence. Merci aux auditeurs pour votre écoute et à bientôt dans mes écouteurs. Paul, c'est à toi dans 3, 2, 1.
C'était Paul Peytoureau sur Radio Alliance Plus et vous écoutez Passez par là.
Qu'est-ce que je veux dire là-dessus? Un conseil.
Ben, cherchez à comprendre le sens de la vie. Si vous ne cherchez pas à comprendre le sens de la vie, qu'est-ce que vous faites sur Terre ?
D'être enthousiaste par rapport, de garder l'enthousiasme de la jeunesse et, d'entrer dans la vie avec empressement, sans peur.
Il faut croire en la vie. Il faut croire au bonheur.
Surtout, ça ne sert à rien de se venger. La vengeance appelle la vengeance et appelle la violence. Et c'est ce qu'on vit en ce moment.
Déjà, la première chose, c'est le respect des autres. Depuis les parents jusqu'à la dernière personne, la chaisière, à l'église ou... Je ne sais pas. Le respect des autres.
Et puis, toujours de s'occuper des petits et des pauvres. Je pense que c'est la racine est là.
C'est la règle de vie, pour moi, c'est ça. L'autre, c'est moi. Donc, l'autre, c'est mon égal.
La parole est un argent et le silence est un or. Je me le mets bien dans la tête, tout ça.
La jalousie, c'est terrible, hein? Il faut tâcher de ne pas être jaloux. Si on est jaloux de quelque chose ou de quelqu'un, on n'est jamais heureux. Parce que l'autre, il y en aura toujours un qui aura plus que vous, en tout.
Cette émission est dédiée à mes grands-parents bien-aimés, mes anges, Joseph et Génia, nés respectivement en 1931 et 1934. Je n'oublierai jamais vos histoires qui ont marqué ma vie. Une belle pensée également à ma Manu, Christiane, 84 ans, que j'embrasse très fort.